Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu à cet atelier sur les préjugés, les stéréotypes, les préjugés. On ira même jusqu'à un terme un peu barbare qui s'appelle les biais décisionnels. Et on vous donnera un peu notre point de vue sur le sujet. Donc, on est trois à animer cet atelier. Donc, Laure Brouwer-Dawson, qui est responsable de la diversité chez EY, Ernst & Young, enfin, anciennement Ernst & Young, voilà, et qui a mis en place au sein de la structure un grand plan de travail et de prise de conscience, justement, de ces notions de stéréotypes et de biais décisionnels. Vous expliquera plus dans le détail. Et puis, Arnaud Lenoir, qui est de la direction des études et de la prospective. En plus simple, l'ADEP de l'AGFIP, qui est donc qui travaille donc au sein de l'AGFIP et qui va commencer l'intervention en vous parlant, en vous resituant un petit peu la situation du handicap au niveau de la société. Et puis donc moi-même qui suis Guy Tisserand, donc qui suis le président du cabinet TH Conseil. Donc, cabinet de conseil, formation, recrutement, spécialisé dans les domaines du handicap, de la diversité, de l'égalité des chances en milieu professionnel, et qui compléterait l'intervention. Donc, je vais commencer par Arnaud. Arnaud, alors, les stéréotypes et les préjugés, ça fait. L'AGFIP existe depuis 88 maintenant, hein, donc ça fait quand même quelques années. Et déjà à l'époque, on parlait de stéréotypes et préjugés, et on continue d'en parler aujourd'hui. Ça veut dire que c'est infini ce truc-là ou quoi?
Alors, tout à fait, oui, ça fait pas mal d'années maintenant que je vais à la GFIP, à la direction de l'évaluation, et on les voit ressurgir un petit peu, effectivement, régulièrement, ces stéréotypes. Et le souci, en fait, c'est qu'effectivement, ils sont le plus souvent négatifs, et cela peut conduire, effectivement, à des attitudes discriminantes. Donc, vraiment, il est important d'avoir une meilleure connaissance, un peu, non seulement du handicap des personnes handicapées et de l'emploi des personnes handicapées. Pour pouvoir essayer de limiter ou en tout cas de réduire justement ces stéréotypes. Je crois qu'on le verra peut-être un petit peu à la fin. Bon, il y en a en tout cas certains qui ont tendance à disparaître et c'est peut-être le point positif. Je voulais peut-être justement, on parlait de connaissances ou de méconnaissances du handicap. Très souvent, nous, la première question à laquelle on est confronté, mais c'est une question toute basique finalement, c'est combien y a-t-il de personnes handicapées finalement? Et depuis que je suis à la GFIP, ça oscille entre 1 million et 15 millions quelque part. J'ai vraiment, effectivement, il y a une méconnaissance, en tout cas assez forte sur ce sujet. Alors, ce que l'on répond, effectivement, nous, notre champ d'intervention, c'est la reconnaissance administrative du handicap. Donc, il y a 2 400 000 personnes handicapées, donc effectivement, qui ont une reconnaissance administrative. Pour vous situer, c'est 6% de l'ensemble des personnes d'âge actif. Donc, le niveau de l'obligation d'ailleurs. Et si on va un petit peu sur une définition un peu plus large, c'est-à-dire que si effectivement on ajoute les personnes qui ont des problèmes de santé durable avec des difficultés finalement dans les tâches de la vie quotidienne, là on arrive un peu plus à 5 millions et demi, ce qui correspond peu ou prou à 14% un peu de la population d'âge actif, donc ce qui n'est vraiment pas neutre. Et plus important encore finalement, c'est beaucoup plus la dynamique. Ce qu'on s'aperçoit ces dernières années, c'est qu'effectivement, la population handicapée a tendance à croître et à croître assez sensiblement. Je parlais tout à l'heure de 2 400 000 personnes. En 2007, on estimait à 1 800 000. Donc, 600 000 personnes en très peu d'années, finalement, c'est une progression, mais colossale. Et c'est un des grands mouvements quand même actuels que l'on peut noter. Il y a plein de facteurs. Hein. Bon, ce n'est pas forcément l'objet ici de la séance, hein, mais bon, il y a des facteurs démographiques, il y a des facteurs législatifs, effectivement, qui viennent un peu nourrir la croissance de cette population. Hein. Peut-être donc rentrer un peu dans les préjugés, hein, ce que l'on peut voir ici et encore. En règle générale, c'est vrai que le handicap, il reste quand même assez fortement perçu comme étant ce qu'on pourrait appeler inné et permanent. Quand vous interrogez des chefs d'entreprise, on est assez frappé, on leur demande assez souvent, finalement, le handicap de naissance, pour vous, cela représente combien de personnes? Quelle part de la population handicapée représente le handicap de naissance? Spontanément, les entreprises déclarent un taux qui est supérieur à 30%. Or, le handicap de naissance, c'est 15% de l'ensemble, effectivement, des personnes handicapées. Et du coup, il y a une vision finalement qui reste quand même assez fortement comme handicap inné, permanent, et pas du tout temporaire, potentiellement temporaire, et lié à une situation de travail. Donc ça limite un petit peu la prise de conscience que le handicap finalement peut survenir et peut concerner tout le monde. Et c'est le cas en l'occurrence, hein, c'est vrai qu'on a aussi tendance à évoquer une enquête qu'on a faite il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années, et dont la conclusion était simple, hein, c'était au cours de sa vie active, vous avez une personne sur deux qui sera confrontée à une situation de handicap. Mais donc que cette situation soit durable ou réversible. Une personne sur deux. Donc là, effectivement, on ne peut pas dire que ça ne concerne pas tout le monde. Donc en général, ça sera des maladies invalidantes, hein, donc pour 60% des cas, donc qui entraînent des restrictions d'activité en termes de temps de travail, etc. Et puis ça peut être effectivement des déficiences, donc pour 40% des cas, où là, effectivement, il y a des limitations fonctionnelles, que ce soit auditives, sensorielles, motrices ou autres. En termes de préjugés, c'est vrai que pour le coup, il y a vraiment des tenaces. Et très souvent, on nous dit le handicap, les personnes handicapées, ce sont des hommes. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est une population masculine. C'était vrai il y a quelques temps. Ça devient de moins en moins vrai. C'est vrai que vraiment, on a une féminisation croissante, hein, dans la société. Finalement, ben, le handicap, on s'aperçoit que effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a près d'une personne handicapée sur deux qui est une femme. C'est vraiment une tendance croissante. On le voit dans nos résultats, on le voit dans les embauches, on le voit dans les maintiens dans l'emploi. Il y a de plus en plus de femmes dans la population handicapée. Alors, une fois que je vous dis ça, effectivement, bon, il y a quand même, les femmes rencontrent vraiment beaucoup de difficultés sur le marché du travail. Donc, elles ont un taux d'activité plus faible, un taux de chômage plus élevé. Elles sont très, très fréquemment à temps partiel. Donc, c'est effectivement, donc ces préjugés-là, en l'occurrence, bon, restent malheureusement vrais. Toujours dans les préjugés, on va vous parler très, très fréquemment du niveau de formation des personnes handicapées. Là, pour le coup, tous les préjugés ne sont pas faux. Donc, effectivement, vous avez les trois quarts de la population qui ont un niveau de formation inférieur au bac. C'est beaucoup plus que la population en général. Ceci étant dit, finalement, les peu diplômés, en général, sont quand même dans des emplois qui entraînent des fois des fortes pénibilités physiques et avec des risques d'accidents plus importants. Donc c'est une des pistes d'explication. D'autre part, quand le handicap apparaît assez tôt dans la vie, finalement, bah, cela perturbe quand même assez largement la scolarité. Donc le faible niveau de diplôme, il est aussi inhérent aux caractéristiques intrinsèques de la population. Autre élément, mais lié un petit peu avec le diplôme, l'âge de la personne handicapée. Les employeurs que l'on peut interroger nous disent il n'y a pas de jeunes diplômés, ce sont des seniors quasi exclusivement. Alors il y en a effectivement beaucoup, donc plus de 50% de la population handicapée est âgée de 50 ans et plus. Et quelque part, c'est un petit peu inéluctable, c'est-à-dire que vous avez un vieillissement de la population, vous avez un recul de l'âge de la retraite, finalement. Donc, beaucoup plus de seniors en activité. Et la prévalence, on le sait, la prévalence du handicap augmente avec l'âge. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peu ou prou 6% de la population handicapée. Sur des tranches plus âgées, de 55-60 ans, les personnes handicapées représentent plus de 10% de cette population. Donc effectivement, l'âge, oui, l'âge élevé, oui, mais effectivement, ça s'explique par tout un tas de facteurs. Peut-être sur le handicap proprement dit, il y a une tendance, en tout cas, à voir le handicap de façon réductrice et de ne pas voir forcément la multiplicité des handicaps. Le handicap est vu avant tout comme un handicap moteur. Et c'est vrai que là aussi, quand vous interrogez les employeurs sur des taux classiques, le taux de personnes qui sont en fauteuil roulant, on va vous dire plus de 10% dans la population. En fait, ça représente 2%. Et du coup, vous avez une surperception finalement des handicaps visibles. Et tout ce qui est invisible, bah, par définition, ne se voit pas. Mais cela représente quand même 80% des cas. 80% de la population handicapée est atteinte d'un handicap invisible. Et du coup, c'est vrai que le volet invisible fait un petit peu peur. Ça fait référence à des maladies invalidantes, ça fait référence à handicap psychique, ça fait référence à tout un tas de choses, finalement, qu'on ne connaît pas. Des situations qui sont déclarées ou qui ne sont pas déclarées, qui entraînent éventuellement des difficultés avec les collègues de travail. Donc c'est une vraie spécificité, le fait de ne pas voir le handicap finalement, bah, quelque part c'est l'inconnu et il y a un petit côté de peur et voire de rejet qui peut exister. Peut-être un tout petit mot, si vous permettez, sur le marché du travail, là aussi dans les stéréotypes, ce que l'on peut nous dire. Ce que l'on entend, en tout cas, toujours parfois, c'est que les personnes handicapées ne sont pas sur le marché du travail, elles sont quelque part ailleurs. Vous en avez tout de même une sur deux, ou près d'une sur deux, qui est sur le marché du travail, c'est-à-dire qui est soit en emploi, soit au chômage. Et les autres personnes, finalement, pour la plupart, sont dans l'incapacité totale de travailler aujourd'hui, mais la plupart ont déjà exercé un emploi. Donc les personnes handicapées, oui, sont quand même assez largement sur le marché du travail. Elles ont un taux d'activité plus faible. Elles ont un taux de chômage plus important, 18% contre 10% dans la population générale. Toujours est-il qu'il y en a quand même environ 900 000 en emploi, donc ce n'est pas neutre. En emploi largement dans le secteur privé, parce que là aussi c'est une question qu'on nous remonte, elles ne sont pas dans le secteur privé. Les trois quarts des personnes handicapées en emploi sont en emploi dans le secteur privé. Donc, effectivement, c'est quand même assez important. Peut-être pour un peu terminer sur les aspects, on va dire, la situation qui n'évolue pas. C'est vrai qu'on entend un petit peu, effectivement, là aussi, finalement, les personnes handicapées, le taux d'emploi reste scotché à 3%, à 3 et quelques pourcents. La situation n'évolue pas. Or, il y a quand même, effectivement, un volet positif. C'est vrai que dans les enquêtes régulières qui sont menées, l'image du handicap dans le monde de l'entreprise, elle évolue favorablement. Vous avez 70% des dirigeants qui le considèrent. Donc ça, c'est une enquête. Bon, le plus important, c'est que, en tout cas sur certains sujets, je ne vais pas vous faire forcément un portrait idyllique de la situation, hein. Vous avez un nombre de demandeurs d'emploi qui augmente. Vous avez un chômage de longue durée qui est vraiment très, très présent. Presque 800 jours en moyenne, finalement, pour une personne handicapée qui est inscrite à Pôle emploi. Toujours est-il que dans les résultats, en tout cas, dans la prise en compte un peu améliorée de la situation des personnes handicapées par les entreprises, juste après la loi de 2005, vous aviez 60% des employeurs qui employaient au moins une personne handicapée. Aujourd'hui, vous êtes sur des taux qui sont beaucoup plus proches de 80%. Donc effectivement, en très peu d'années, il y a quand même une amélioration assez forte. A contrario, les établissements que l'on appelle sans action positive, c'est-à-dire qui ne recourent ni à l'emploi ni à la sous-traitance, celles-là, elles pesaient 29% il y a effectivement juste après la loi de 2005. Aujourd'hui, c'est 8%. Donc on le voit quand même, effectivement, il y a des lignes qui bougent de plus en plus, avec effectivement beaucoup d'embauches, beaucoup de maintien dans l'emploi et des difficultés, certains préjugés qui demeurent quand même.
Merci Arnaud. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous veulent lui poser des questions maintenant ? N'hésitez pas. Sinon, à la fin de notre intervention, on reviendra aussi à la possibilité de poser des questions. Donc je vais demander alors... Pardon. Oui.
En ESAT ou en entreprise adaptée ou non ?
Oui, le cas échéant, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une source, pour le coup, c'est une source INSEE, c'est l'enquête emploi, et elle prend en compte tous les ménages dits ordinaires, c'est-à-dire que tous les ménages qui ne sont pas, sauf les personnes qui sont en institution. D'accord. Donc vous avez une large partie, finalement, des personnes qui sont en milieu protégé, qui sont incluses dans ce 900 000.
En fait, ce sont toutes les personnes qui ont un statut de salarié. Donc c'est toutes les entreprises qui sont en entreprise adaptée, mais pas les entreprises qui sont en ESAT, puisqu'elles n'ont pas le statut de salarié. Donc, en fait, il y a bien une partie du secteur protégé adapté qui est comptabilisée. En revanche, la partie des personnes qui travaillent en ESAT, enfin, qui sont en ESAT, ne sont pas des salariés au sens juridique et donc ne sont pas comptabilisés dans ce total. Mais ils ne sont pas non plus considérés comme demandeurs d'emploi. Parce qu'ils ne sont pas inscrits au chômage. Voilà. Ils ne sont pas dans les statistiques, si vous préférez. Alors, je vais passer la parole à Laure. Donc... Laure, donc, au sein de DY, ça fait maintenant à peu près 7 ans que vous conduisez une politique d'emploi de personnes handicapées. Tu étais responsable handicap, puis tu es devenu responsable diversité. C'est quoi le lien entre les deux ?
Je n'avais pas prévu du tout de parler de ça.
Non, mais tu vas parler des préjugés, des stéréotypes. Tu vas pouvoir expliquer que ça va au-delà du handicap.
Oui, bien sûr. En fait, c'était une suite naturelle, finalement, le handicap. Je pense que quand on aborde la question du handicap en entreprise, après, on est blindé pour parler d'à peu près toutes les autres problématiques liées à la diversité. J'ai eu la chance qu'effectivement, on me propose d'élargir mon périmètre au bout de 2 ans au périmètre plus large de la diversité. Et c'est vrai que la question des stéréotypes et des biais décisionnels est partout. Elle se cache partout, enfin elle ne se cache pas d'ailleurs. Elle est très 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 présente. Et en fait, j'ai imaginé, pour vous expliquer un peu notre quotidien, j'ai imaginé un dialogue de sourds. Donc je vais prendre mes petites lunettes parce que sans elles je suis un peu handicapée. Et puis après je vous expliquerai ce qu'on a fait. Donc vous imaginez que je suis en train de parler avec un recruteur chez moi. Et je viens de lui annoncer que j'avais un super profil pour ses équipes. Ah mais je ne peux pas prendre une personne handicapée dans l'équipe, c'est pas possible avec le boulot qu'on a, les échéances très courtes et la pression du client. Et alors ? Bah alors, il va falloir gérer les absences, le manque de compétences, puis imagine s'il nous plante. Comment j'explique ça à l'équipe qui est déjà débordée ? Et aux clients ? Puis il va falloir un temps dingue pour l'intégrer. Et puis il risque de ne pas vouloir, tu penses ? Il va vite se rendre compte qu'il est moins productif que les autres membres de l'équipe. C'est pas un cadeau à lui faire. Bon, ben si tu veux pas recruter, on va développer les achats. Alors, avec les entreprises du secteur protégé et adapté, tu sais, t'en as entendu parler. Non, c'est quoi ça ? Ben, c'est des entreprises dont les salariés sont en situation de handicap. Alors, en achetant leurs biens et services, on fait de l'emploi indirect et ça nous aide dans notre politique handicap pour augmenter notre taux d'emploi, tu sais, 6%. Ah, je me souviens des CAT. Tu peux toujours y aller, hein. Ils ne feront jamais le poids face à nos process d'achat. Ils sont plus lents, plus chers et moins qualitatifs que les autres fournisseurs ordinaires. Alors, je vais te dire... voilà. C'était un très raccourci, notre quotidien depuis 8 ans. Heureusement, un quotidien qui s'est beaucoup, beaucoup amélioré grâce, effectivement, à une série d'actions qu'on a menées. Moi, j'appelle ça mon petit plan d'action poupée russe parce que on a des actions qui touchent tout le monde et puis on a des actions qui touchent la personne. Alors, la personne de qui je parle ? Je parle des acteurs clés de la politique handicap, hein, les acheteurs, les recruteurs, les formateurs, tous ces gens-là dont on a absolument besoin. Il a fallu qu'on les travaille au corps pour leur faire comprendre qu'on peut recruter des personnes handicapées qui soient compétentes, à leur place, productives, qui nous aident dans notre travail vis-à-vis de nos clients. Alors, comme en plus on a des équipes qui tournent, évidemment, il faut recommencer. C'est un travail de longue haleine. On a aussi travaillé avec nos managers, nos associés. Donc on a mis en place depuis, c'est la cinquième année, une formation sur les stéréotypes et les biais décisionnels avec Patrick Charnitsky qui a fait d'ailleurs une étude passionnante avec l'IMS que je vous invite à aller télécharger directement sur le site qui a été faite auprès de 3000 managers de grands groupes comme L'Oréal, La Poste, etc. où vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur les stéréotypes. Et donc Patrick déploie cette formation depuis 5 ans chez nous. Et donc, ça s'adresse aux managers, aux gens qui vont encadrer des personnes en situation de handicap, aux gens qui vont devoir les manager, les intégrer, faire de l'inclusion, comme on dit. Et c'est une formation que l'on a voulu transverse à tous les sujets de la diversité, pas seulement le handicap, sachant qu'on est quand même sur des mécanismes qui sont très, très similaires dans les différents sujets. Donc, en travaillant sur l'un, on travaille sur l'autre. On a aujourd'hui formé 800 managers et associés, hein, donc c'est vraiment, ça a été quelque chose d'une grande ampleur. On a fait aussi des actions de sensibilisation auprès de tous nos collaborateurs avec tout un tas d'événements que vous connaissez bien qui visent à mettre en situation, créer des occasions de rencontre, de dialogue entre des personnes handicapées, des personnes non handicapées, montrer que c'est possible, montrer qu'il n'y a pas à avoir peur, montrer que finalement on est tous des hommes et des femmes comme les autres et qu'on a beaucoup à s'apporter. Et puis, il y a un dernier type d'accompagnement qu'on fait, qui est un accompagnement en one-to-one. Et donc, cet accompagnement-là émerge quand on doit intégrer une personne en situation dans une équipe ou quand un salarié devient une personne en situation de handicap. Il y a un travail de pédagogie à faire. Et là, c'est très important parce qu'on fait tomber les stéréotypes. On fait tomber les tabous. On pose les questions sur la table, on crée un climat de confiance qui permet finalement aux choses de se dire. Et du coup, on arrive à créer le possible. Et je voulais terminer mon intervention sur une chose m'a interpellée, à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que probablement, au moins autant que les acteurs de l'entreprise qui accueillent la personne en situation de handicap, la personne en situation de handicap elle-même a beaucoup de stéréotypes et de biais décisionnels, et on passe aussi beaucoup de temps avec ces personnes-là. On essaye de le faire en amont, pendant qu'ils sont dans le cours des études, etc. On passe beaucoup de temps à faire comprendre pourquoi le petit papier RQTH, c'est important, pourquoi il ne faut pas avoir peur, pourquoi il faut apprendre à parler de sa situation. Aujourd'hui, les entreprises, en tout cas les grandes, mais on essaye aussi de partager avec les plus modestes. Moi, je partage beaucoup avec des entreprises qui n'ont pas forcément de quoi avoir un poste de chargé handicap, mais on partage le plus possible. On est tout à fait ouvert à le faire encore plus pour expliquer, quoi. C'est juste ça, montrer que la confiance peut tout permettre. Ça, c'est vraiment très important. Et pour conclure, je dirais que mon président qui intervenait ce matin dans la plénière parlait de quelque chose qui devait être ancré dans la stratégie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, qui inscrit l'entreprise dans la pérennité. On parle de développement durable aujourd'hui. C'est clair, le handicap, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un tournement. En 8 ans, on est passé de 0,30% de taux d'emploi à 1,3%. C'est à la fois rien du tout, et en même temps c'est énorme dans une entreprise de service comme la nôtre. Et je dis toujours que à tous ceux qui disent ça va pas assez vite, je dis oui, mais attends, moi je fais pas du prêt-à-porter, je fais de la haute couture. Voilà. Donc je pense à tous mes amis chargés de mission handicap avec qui on avance main dans la main, parce que c'est aussi ça le handicap. On a vraiment un quotidien qui on passe notre temps en fait à faire tomber les tabous, les préjugés, etc. Voilà, donc je suis à disposition si vous voulez en parler plus. Et je passe la parole à Guy.
Merci Laure. Si vous avez des questions, des interrogations sur cette intervention, n'hésitez pas. Non ? Bon. Oui ?
Pour faire avancer ma productivité, pour être qui soit à l'égal des autres.
Alors, en fait, d'abord, on rassure le manager, parce que nous, on ne recrute pas pour recruter. Et il faut que la personne, elle trouve sa place, qu'elle la trouve bien et que tout le monde y trouve son compte. Donc, on a reçu parfois des profils de gens qui étaient effectivement très compétents sur le papier, mais dont la situation personnelle était complexe à rendre compatible avec nos jobs. Nous, on est à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. C'est une aventure qu'on veut vivre avec les gens. Ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit la personne qu'on va recruter, on pose à plat le quotidien. Et on le pose à plat avec la personne, mais avec le manager qui va recruter. Parce que c'est souvent des questions qui permettent de faire tomber ce qu'on considère comme étant l'obstacle. Il y a plein de déplacements. Ben oui, d'accord, mais c'est pas parce que j'ai des soins, je me les fais tout seul, mes soins, donc je peux me déplacer. Voilà, il y a plein. Si une situation s'avère dans l'explication pas possible, on ne va pas pousser. D'accord. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est l'exemplarité, finalement. On fait très attention. Il y a des gens à qui on a dit non. On s'est interdit aussi de prendre certaines personnes. Alors, non, parce qu'ils n'allaient pas, mais on s'est aussi interdit de prendre certaines personnes parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir garantir les bonnes conditions pour que ces personnes-là travaillent correctement. Et nous, ce qu'on voulait, surtout au début, c'était avoir des histoires réussies pour pouvoir s'appuyer dessus, pour dire, regarde, tu croyais que ce n'était pas possible, mais toi, tu penses que ce n'est pas possible chez toi, mais regarde, à côté, ça s'est super bien passé. Voilà. Et on ne fait pas d'angélisme non plus. Toutes les histoires qu'on a, même les plus belles, il y a eu des moments durs. Ben, il faut se le dire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On ne se perd pas de vue, on crée la confiance, je crois que c'est le maître mot, pour être alerté quand il faut. Voilà.
Dans vos métiers, il y a un turnover qui est très fort, quel que soit le type de...
Merci. Dans le type d'entreprise de service que vous représentez, il y a un turnover qui est très très fort, quel que soit le type de personne, valide ou personne handicapée. Est-ce que ce turnover est plus important pour les personnes handicapées ?
Pas du tout. On a le même turnover pour les patients handicapés et les autres. Alors, c'est vrai que le turnover chez nous est très important et c'est un vrai frein à l'augmentation de notre taux d'emploi. En revanche, comme on considère les personnes en situation de handicap et qu'on les manage et qu'elles ont une gestion de carrière comme les autres, bah oui, ils font leur temps. Chez nous, en général, la majeure partie des gens restent entre 3 et 5 ans. Bah, les personnes handicapées aussi, elles restent entre 3 et 5 ans, puis elles vont vivre leur vie ailleurs. Certaines reviennent, certaines partent. Voilà, l'idée, c'est que nous, on a notre tagline hein, qui dit que l'expérience EY dure toute une vie. Donc, c'est des gens qu'on retrouve à l'extérieur aussi et on est encore en contact. Mais ça rend les choses plus compliquées, c'est tout. Mais c'est pareil.
Moi, j'avais une question sur le maintien dans l'emploi, parce qu'en fait, là, vous parlez de recrutement de personnes handicapées. Et effectivement, vous les prenez, elles sont performantes, elles peuvent délivrer. Mais vous êtes une entreprise exigeante et quand vous avez une personne... comme l'a dit M. Lenoir, qui devient handicapée, c'est-à-dire elle ne peut plus fournir à 100%. Qu'est-ce que vous faites par rapport au manager pour qu'il l'accepte ?
Alors, d'abord, le fait d'avoir mis en place une mission handicap a beaucoup fait évoluer la gestion de l'inaptitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on anticipe, on se prépare, il y a des liens, là encore, de confiance et de collaboration qui sont mis en place avec la médecine du travail, qui sont évidemment... des garants un peu plus solides pour gérer ce type de situation. Après, ça dépend complètement des situations de chacun. On a fait beaucoup de reclassements de personnes qui étaient, par exemple, dans nos métiers du front vers les métiers de l'interne, qui sont plus sédentaires en général. On a 70% de nos collaborateurs dans les métiers de service qui sont nomades. Donc là, il peut y avoir des problématiques simplement parce qu'on a besoin de se soigner, quelqu'un qui a un cancer ou quelque chose comme ça, qui temporairement va rentrer dans les métiers de l'interne et repartir. Après, je dirais que c'est encore une fois, comme avec n'importe qui, personne handicapée ou pas, si la situation de santé permet un maintien dans l'emploi, on anticipe, on essaie de préparer. Et le manager, à la limite, il intègre ça dans sa façon de travailler parce que, de toute façon, notre politique, elle vient du haut. Donc, avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais aujourd'hui, on se pose la question, on s'organise autrement. Voilà, c'est pas tellement... C'est encore une fois le dialogue qui permet beaucoup de régler les situations. Voilà.
Vas-y. Merci, Laure. Merci. Du coup, je vais rebondir sur une ou deux questions qui ont été remontées là. Quand vous posez la question, disant comment on va faire pour convaincre le manager, finalement. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement, dans laquelle la notion de stéréotype est quand même assez mise en exergue. Moi, je suis à l'origine, je suis informaticien de métier, ingénieur en informatique et en mathématiques appliquées. Et j'étais sportif de haut niveau pendant à peu près 20 ans en tennis de table handisport. Je participais 4 fois aux Jeux paralympiques et je suis allé à Séoul, à Barcelone, à Atlanta pour faire les Jeux. Et en 1994, j'étais chef de projet informatique et il y a un poste de responsable de service informatique qui s'est libéré. Donc moi, j'avais envie de ce poste m'intéresser, donc j'ai postulé. Et là, mon N+2 m'a invité à venir le voir en entretien et il m'a dit, écoute, voilà, il faut que je te dise, ça ne va pas être possible. Le poste, ça ne va pas être possible. Je dis, ah bon, c'est dommage, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas les compétences. Il me dit, non, c'est pas lié aux compétences. Je dis, ah ouais, je commence à sentir le truc. Je dis, bon, ça commence bien, alors vas-y, explique-moi pourquoi. Il me dit, tu comprends, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de déplacements. Je dis, oui, et alors ? Alors, oui, vous comprenez bien que j'imaginais bien ce qu'il voulait dire, mais je voulais le pousser un peu dans ses retranchements, donc je lui dis, non, je ne comprends pas, je comprends pas ce que tu veux me dire. Et là, il me dit, oui, mais dans ta situation, les déplacements, tu comprends, ça va être très compliqué. Je dis, non, je ne comprends toujours pas. Et il me dit, t'es en fauteuil. Je dis, oui. Il me dit, donc tu ne peux pas te déplacer. Ah, c'est ça le problème. Il me dit, oui, c'est ça le problème. Je dis, et si je n'étais pas en fauteuil, est-ce que j'aurais le poste ? Il me dit, oui, c'est toi qui as le plus de compétences. Je dis, donc je vais avoir le poste. Il me dit, non, je viens de t'expliquer que ce n'était pas possible. Et moi, je dis, moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est possible. Je lui dis, parce que là, tu es en train de m'expliquer que je ne peux pas aller à Strasbourg, à Lille ou à Paris pour faire un rendez-vous professionnel. En revanche, tu sais très bien que je suis allé à Séoul, à Barcelone et à Atlanta pour faire les Jeux paralympiques. Est-ce que tu peux m'expliquer la logique de ton propos ? Et là, il est devenu tout vert et il m'a dit, je crois que j'ai dit une connerie. Je lui dis, je suis content que tu le reconnaisses, est-ce que je vais avoir le poste ? Et j'ai eu le poste. En fait, si vous voulez, la problématique, et c'est vraiment la problématique des stéréotypes et des préjugés, c'est quoi ? C'est la capacité qu'on a tous, nous les êtres humains, à généraliser une représentation qu'on a du monde. Et par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je vais juste repositionner ça un petit peu en prenant une petite analyse intellectuelle là-dessus, en expliquant comment ça fonctionne un préjugé. En fait, je vais vous demander de faire un petit exercice, un petit jeu, et je vais prendre un gros risque parce qu'on est en début d'après-midi, tant pis, je le fais. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, sans vous endormir, fermer les yeux? Ok. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, imaginer une chaise? C'est bon? Maintenant, ouvrez les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire si la chaise que vous venez d'imaginer est en tout point strictement identique à la chaise sur laquelle vous êtes assis? Oui. Peut-être certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Bon. En fait, il y a un truc de sûr, c'est que vous venez d'avoir ce qu'on appelle une représentation d'une chaise. Vous venez de vous représenter une chaise. Et c'est fort bien que vous puissiez vous en représenter une, parce que si vous ne pouviez pas vous représenter une chaise, si je vous demandais d'aller me chercher une chaise, vous me diriez « de quoi parlez-vous ?» Autrement dit, la représentation mentale, c'est juste indispensable à la vie en société. Parce que si on n'a pas de représentation mentale, en fait, les mots sont des représentations mentales. Donc si on n'avait pas de représentation mentale, on ne pourrait pas parler ensemble, puisque je vous dirais un mot et vous ne sauriez pas de quoi je parle. Les mots ne sont que des représentations. Ce qui fait que les représentations, c'est indispensable. Pour autant, là où ça commence à poser problème, c'est quand on a tendance à généraliser les représentations. Autrement dit, si vous générez la représentation de la chaise que vous avez eue, que vous en faites ce qu'on appelle un stéréotype, c'est-à-dire que vous allez considérer que la chaise que vous avez imaginée représente toutes les chaises. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas imaginé cette chaise-là, si je vous dis « y a-t-il des chaises dans cette salle ?», vous allez me répondre « non ». On d'accord ? Et pour ceux qui ont imaginé cette chaise, si je vous dis « y a-t-il des chaises ailleurs qui ne sont pas pareilles ?», vous allez me dire « non ». Pourquoi ? Parce que vous aurez généralisé sous forme de stéréotypes. Et notre cerveau à nous, les êtres humains, il a besoin des stéréotypes. Parce qu'il a besoin de ranger dans les cases. Ça nous simplifie la vie. Le problème, c'est que quand on généralise, derrière, on fabrique ce qu'on appelle des préjugés. C'est-à-dire qu'on va juger avant quelqu'un. Là, par exemple, mon patron N+2, son préjugé, c'était que, étant en fauteuil roulant, je ne pouvais pas me déplacer facilement. C'était bien un préjugé, puisqu'il n'en savait rien, en fait, en réalité, si j'étais en capacité de me déplacer ou pas. Et les préjugés peuvent être statistiquement vrais ou faux. C'est ça qui est terrible. Parce que quand on dit oui, les personnes en fauteuil, c'est que 2% des personnes. Alors, de la totalité des personnes handicapées. Là, on voit bien qu'on est sur un préjugé totalement faux, un stéréotype statistiquement faux. Mais même si c'est vrai à 75%, si on le généralise à l'ensemble de la population, on va discriminer 25% de la population. Vous me suivez dans le raisonnement ? Et donc, la problématique du préjugé, c'est qu'on va juger avant, c'est son nom. Et donc, ça fabrique, et c'est Laure l'a dit tout à l'heure, ce qu'on appelle des biais décisionnels. C'est-à-dire que la décision qu'on va prendre va être faussée non pas par la réalité, mais par l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Et là, je vous le dis pour le handicap, mais je vais vous donner 2-3 autres termes assez rapides qui vont vous donner une idée de ce que ça peut engendrer chez nous comme biais décisionnel. Par exemple, je vais vous dire les blondes. Ça n'a rien de personnel. Hein. D'accord ? Je vais dire les fonctionnaires, par exemple. Alors, les fonctionnaires blondes. Les fonctionnaires blondes corses. Alors là, bon, vous voyez, on ne sait plus ce qui est vraiment le préjugé là-dedans. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, on a tous des préjugés. On en a tous. Moi, par exemple, ça fait 11 ans que je travaille là-dessus tous les jours. Je suis toujours farci de préjugés. Sauf que là où j'ai l'impression d'avoir un petit peu progressé, c'est que désormais, quand mon préjugé se transforme en biais décisionnel, j'en ai conscience. Et du coup, j'essaye non pas d'éviter d'avoir des préjugés, j'essaye d'éviter ou de limiter l'impact de ces préjugés sur mes comportements en termes de biais décisionnels. Est-ce que vous voyez le raisonnement ? Et c'est ça qui est fondamental et qui nécessite... Alors, quand vous dites comment faire pour lever les freins d'un manager, ben, il faut déjà aller le voir, le rencontrer et objectiver sa vision. Quand il dit, il va être moins souvent là, plus souvent malade, il va falloir le... Mais comment, qu'est-ce qu'on sait ? Rencontre-le d'abord. Si jamais c'est vrai, on verra comment on le gère. Et nous, Mission Handicap, on est là pour le faire. Mais la plupart du temps, ce ne sera même pas vrai. Et donc la question, c'est de rendre réelles les représentations qu'on a de manière collective. Et donc de tangibiliser la relation à la personne. Et la meilleure façon de travailler sur les stéréotypes dans le domaine du handicap, mais c'est vrai sur toutes les formes de stéréotypes, sur la couleur de peau surtout, c'est de rencontrer les gens, quoi. Donc... Sortons de la vision toute faite des choses et passons dans la relation individuelle. Et pour ça, il faut déjà être en capacité d'être suffisamment ouvert pour se donner la chance de la rencontre, en fait. C'est la meilleure façon de travailler sur les préjugés. Vous savez, moi, je l'ai dit ce matin pour ceux qui étaient à la plénière, moi, avant, j'étais donc informaticien. Moi, les gens, ils me croyaient pas quand je disais que j'étais informaticien. Je disais, mais pourquoi ? Ils me disaient, parce que tu parles aux gens. Je dis, c'est quoi votre préjugé, quoi ? Vous voyez ? Et ça va bien au-delà de tout ça. On parle les relations entre... Vous avez une entreprise qui rachète une autre entreprise. Bonjour, les préjugés. Etc., etc., entre les métiers. Donc, en fait, la question, c'est que tout ce que vous a dit Arnaud, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'objectiver la réalité du sujet du handicap. Et la deuxième étape qui est la plus importante, c'est de se dire qu'il faut que je construise la compréhension du phénomène de biais décisionnel. Parce que si je le construis, alors tous les préjugés que j'aurai demain, dans l'avenir, parce que j'en aurai toujours, je serai capable d'identifier qu'ils ont un risque, c'est de me faire agir de manière inadaptée par rapport à la réalité de la situation. Et on peut donner je vais raconter une petite histoire pour illustrer ça de manière très concrète. Vous marchez sur le trottoir le matin, vous partez à votre bureau et vous arrivez à un feu rouge. Enfin, vous êtes sur le trottoir en train de marcher. Et là, vous voyez une personne aveugle qui est en train d'attendre sur le bord du trottoir. Vous avez en fait 5 grands comportements possibles. Le premier, c'est que vous passez derrière et vous dites rien. Vous avez autre chose à faire ce jour-là. Le deuxième, vous êtes hyper énervé depuis ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris la tête, mais vraiment bien. Donc, vous arrivez derrière et vous en profitez pour lui mettre un grand coup de coude. Ça soulage. Hein, c'est pas gentil. Hein. Ça s'appelle un biais décisionnel, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la décision qu'on prend de lui mettre un coup de coude n'a rien à voir avec la situation dans laquelle on est. C'est juste qu'on a été énervé par quelqu'un d'autre. Alors vous allez me dire, non, mais personne ne fait ça. C'est pas vrai. On fait tous plus ou moins ça. Alors, pas un coup de coude. Hein. Mais ça nous arrête tout. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de m'énerver après quelqu'un qui ne m'avait rien demandé, juste parce que j'étais énervé par quelqu'un d'autre. Hein. Ça s'appelle un biais décisionnel. Troisième situation, vous approchez de la personne, vous dites, je lui donnerais bien un coup de main, mais la dernière fois que j'ai proposé mon aide à une personne aveugle, je me suis fait envoyer sur les roses. Et du coup, j'ose pas. Ça s'appelle un biais décisionnel. Puisque j'ai généralisé une expérience malheureuse, que j'en ai fait une généralité, je me dis, la prochaine fois, ça va être pareil. Sauf que la personne, c'est pas la même. Et la situation n'est pas la même. Mais on a tendance à généraliser. Quatrième possibilité, je m'approche de la personne, je la prends par le bras et je la fais traverser. Sauf qu'elle ne voulait pas traverser. Alors ça m'est déjà arrivé. Moi, j'étais en train de monter tranquillement mon fauteuil roulant dans la voiture. Il y a quelqu'un qui se pointe et qui me dit « Je vais vous aider ». Je dis « Non, non, c'est bon, je me débrouille. »« Si, 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 je vais vous aider. » Et là, il prend le fauteuil, il me le monte dans la voiture et il me déchire le siège de ma bagnole. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de lui mettre mon poing dans le nez, quoi. Alors, d'une part, parce qu'il a déchiré mon siège, mais d'abord et avant tout, parce qu'il m'a imposé sa volonté sous prétexte que je suis handicapé. Autrement dit, il a eu un biais décisionnel. Cinquième possibilité, vous allez voir la personne, vous dites bonjour, avez-vous besoin d'un coup de main ? La personne vous répond oui, vous l'aidez, la personne vous répond non, vous l'aidez pas. Ben, vous voyez les effets que ça peut avoir. Donc en fait, la notion de stéréotype de biais décisionnel, parce que ça, on peut le transposer à plein d'autres situations. Hein. Vous avez quelqu'un qui a plein de paquets dans les mains, il y a un paquet qui tombe par terre, vous avez 5 comportements possibles. Hein. Vous passez, vous en foutez. La deuxième, vous mettez un grand coup de pied dans le paquet. La troisième, c'est vous ramassez le paquet, mais l'autre vous dit « Oh, voleur !» La quatrième, vous lui... Hein, vous voyez ? Donc, vous osez pas l'aider, voilà. Et puis, bon. Donc ça marche bien sur plein de choses. Donc en fait, cette notion de stéréotype et de biais décisionnel, ça oriente nos actions au quotidien sur toutes les relations qu'on a dans le monde. Et c'est en ça que le handicap, c'est hyper intéressant, parce que ça nous amène à être obligés de réfléchir sur ces notions de stéréotype et biais décisionnel. Et du coup, ça peut nous aider dans notre relation au quotidien avec n'importe qui. C'est-à-dire que désormais, moi, quand je rencontre une femme blonde, je lui parle normalement. Avant, je limitais à 200 mots mon vocabulaire. Ah mince, excusez-moi, je vous avais pas vu. Juste pour terminer, je rebondis sur ce que disait Laure sur la notion des préjugés et stéréotypes qui sont aussi pour les personnes handicapées. Alors, il y a un autre effet très important dans les stéréotypes, c'est que très souvent, quand on parle de stéréotypes, on ne parlera que des stéréotypes négatifs. Il existe aussi... Alors, les stéréotypes négatifs, ils sont construits par plus de 2000 ans d'histoire, ça s'explique par plein de choses. Mais il existe aussi ce qu'on appelle les stéréotypes positifs. Autrement dit, on va croire que parce qu'une personne est handicapée, elle est forcément courageuse, motivée, volontaire, dynamique, intéressante, rigolote et sympa. Ben, c'est pas vrai. On a le droit d'être handicapé, feignant et con. C'est pas interdit, en fait. Et le problème, c'est qu'à force de penser qu'on a des stéréotypes positifs, ça induit des phénomènes qui s'appellent, en psychologie, ça s'appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est « tu penses, donc je suis ». À force de penser que les personnes handicapées sont courageuses, motivées, volontaires, etc., ça veut dire que le jour où elles le sont vraiment, on trouve ça juste normal. Donc aucune valorisation de l'effort ou des qualités, puisque c'est normal. Et la personne handicapée se dit « je dois donc en faire plus que les autres ». Et donc je surcompense ma situation en estimant que c'est normal. Eh bien, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand quelqu'un... Moi, par exemple, depuis que je suis tout petit, les gens me disent tout le temps « qu'est-ce que t'es courageux ?» Oh, ça m'énerve qu'on me dise ça. Pourquoi ? Si vous en savez, personne ne sait si je suis courageux. Enfin, sauf s'ils me connaissent suffisamment, vous voyez. Mais c'est un préjugé, en fait. Mais un préjugé positif. Hein. N'empêche que si je le... Ou même motivé, par exemple. Si on vous dit « quand on est handicapé, on est motivé ben, », ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend du contexte, ça dépend du moment, ça dépend de l'environnement dans lequel ils sont, enfin, ça dépend de ce qui s'est passé ce matin chez eux, ça, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Donc cette notion de préjugé positif est aussi dangereuse, voire parfois plus dangereuse que le stéréotype négatif, parce qu'en fait, on a bonne conscience d'avoir des stéréotypes positifs. Et moi, j'ai un ami, par exemple, il est musulman, enfin, il est plutôt d'origine d'Afrique du Nord, et tout le monde n'arrête pas de lui demander la recette du couscous. Sauf qu'il n'est pas cuisinier, le gars. Il est juste originaire d'Afrique du Nord. Quoi. Hein? Et quand on est chinois, alors on est bon en cuisine aussi. C'est bon. Hein? Non, ouais. Voilà. Donc on n'est pas les stéréotypes positifs, c'est aussi négatif, voire plus négatif que les stéréotypes négatifs, que les stéréotypes négatifs. Et dernier point, et après on passe aux questions. Dernier point que je voulais aborder, c'est le poids des mots. On en parlait tout à l'heure à midi avec une personne qui était avec qui je déjeunais, et on parlait du poids des mots. Alors. Il y a des gens qui parlent de, enfin, on parle de personnes handicapées, de personnes en situation de handicap. Bon, ces différentes thématiques sont employées, mais très souvent, à l'origine, on parlait de handicapés. Et on disait un handicapé, les handicapés. Ça pose une question, en fait. C'est-à-dire que si je vous dis handicapé, c'est quoi comme mot à l'origine ? C'est un adjectif qualificatif. Si je dis un handicapé, je le transforme donc en substantif. Si je le transforme en substantif, ça signifie que, eh ben, ça devient la substance de la personne. Donc la transformation du qualificatif en substantif est en soi stigmatisant, même si on ne veut pas stigmatiser. Regardez, je vais prendre un exemple. Hein. Laure, par exemple, que je connais bien depuis pas mal de temps, c'est quelqu'un de très psychologue. Si je vous dis qu'elle est très psychologue, vous entendez qu'elle a une capacité une empathie, un intérêt pour les autres, une capacité d'écoute, des choses comme ça. Par contre, si je vous disais que Laure est une psychologue, vous comprendriez que c'est son métier. Ben, vous savez quoi ? Handicapé, c'est pas mon métier, en fait. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est de travailler pour mes compétences et pas parce que je suis handicapé. Et ça rejoint ce que disait Laure tout à l'heure. Voilà, en gros, très rapidement, parce que je regarde, comme je suis normalement censé être le timekeeper, il reste 5 minutes. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous laisser, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous.
Je voudrais juste ajouter une chose qui va dans le sens de ce que tu disais sur l'objectivation. Ça répond aussi à votre question, madame. La formation sur les stéréotypes et biais décisionnels qu'on a mise en place, la première version, c'était une version qui traitait beaucoup des stéréotypes et pas beaucoup de l'environnement de l'entreprise. Et très très vite, après une ou deux sessions, on a objectivé le vivier sociodémographique des différentes populations dont on voulait parler dans notre formation, les femmes, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que les participants ne croyaient pas ce qu'on leur disait. Et donc, on s'est mis à aller chercher des statistiques à l'INSEE dans les études très sérieuses qui ont été publiées, etc. Simplement parce que les gens, en fait, il ne suffit pas de leur dire pour qu'ils vous croient. Il faut leur démontrer. Alors, a fortiori chez EY, qui est un cabinet d'audit où vraiment la force de la preuve est importante. Mais je pense que c'est très important si dans les entreprises, on met en place ce type de politique. Objectiver les choses dans la relation entre la personne handicapée pour convaincre le manager, objectiver la situation. Tu penses que ça va être compliqué ? Pourquoi ? Voilà, ça permet de dire bah, c'est possible ou c'est pas possible. Voilà, je voulais juste.
Et du coup, je veux rebondir sur deux choses. La première, c'est qu'il n'est surtout pas question de nier la complexité. Si vous dites à des managers c'est pas vrai, c'est pas compliqué, embaucher une personne handicapée et l'adapter son environnement, s'il y a besoin de l'adapter, quand il y a besoin de l'adapter, ça va se faire comme une lettre à la poste. Ben, vous ne serez pas crédible, donc il faut être dans le réel, il faut être dans le factuel et dans le réel. Ça, c'est la première chose. Hein. Donc, quand ce n'est pas compliqué, ben, ce n'est pas compliqué, mais quand ça l'est, il ne faut pas le nier. Et il ne faut surtout pas culpabiliser les gens d'avoir des stéréotypes, puisqu'on en a tous. Voilà. Et la deuxième chose, pour revenir à ce que vous évoquiez sur le maintien dans l'emploi tout à l'heure, l'une des problématiques majeures du maintien dans l'emploi, c'est la détection trop tardive des situations. C'est-à-dire, on ne va savoir qu'il y a un problème que quand c'est déjà le feu totalement. Et on n'est plus qu'en situation en gestion de situation de crise. Et pourquoi on le détecte trop tardivement? Parce qu'il y a trop de stéréotypes, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont le préjugé que s'ils en parlent, ça va mal se passer pour eux. Donc si vous voulez avancer sur le sujet du maintien dans l'emploi, il faut construire un environnement qui montre que se faire connaître comme responsable handicap, c'est normal, en fait, et on peut tout à fait en parler sans risquer d'avoir des effets de bord extrêmement négatifs. Donc ça, c'est un élément en quoi le travail sur les stéréotypes peut induire aussi une avancée sur la thématique du maintien dans l'emploi. Il va falloir qu'on s'en aille, mais attendez, une question peut-être encore? Une ou deux? C'est bon? Bon, et bien, si vous n'avez pas d'autres questions, merci d'être venu et bon après-midi.